Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du rendez-vous des audacieux. Aujourd'hui, j'ai comme invité Mylène. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
Merci pour l'invitation.
Je t'ai invité car tu es une personne que j'ai envie d'apprendre à connaître. Ça fait un peu déclaration d'amour, mais c'est pas l'idée.
C'est pas encore la Saint-Valentin.
Non, bientôt. Tu as fait plein de choses à Strasbourg. Je vais lire ton CV. En gros, tu me coupes si je me trompe. Mm-hmm. Tu es directrice artistique en freelance.
Oui,
en
freelance. Ouais.
Chroniqueuse chez France Bleu Alsace, membre CGD.
Du CJD.
CJD, pardon.
Oui,
excusez-moi.
Centre des jeunes dirigeants.
Oups. Vice-présidente entrepreneur Alsace.
Vice-présidente des entrepreneurs Alsace, ouais.
Tu as un podcast.
Ça commence à faire beaucoup.
Tu as un podcast avec... comment ça s'appelle ?
Maïté.
Maïté. Et c'est le sujet, c'est ?
My Positive Factory. On parlera des initiatives positives en Alsace.
Donc, qui sort là
Ouais, c'est en train de sortir doucement. On en a enregistré quelques-uns et du coup, j'ai hâte de le vivre plus pleinement encore.
J'ai hâte de l'écouter.
Ouais.
Est-ce que j'ai oublié quelque chose?
J'ai fondé le Working.
Et le Working,
voilà,
on va parler.
Ouais, y a un an et quelques mois. Donc, c'est quand même, ça fait partie de mes activités principales. Donc voilà, il manquait ça.
J'en ai pas parlé tout de suite parce que
ouais, mais je vais
l'aborder. Des projets en vue?
Ouais, partir en vacances, prendre soin de moi.
C'est plutôt cool. Des clones en création ou pas? Pour t'aider, toute seule, ça fait
Écoute,
beaucoup.
J'investis beaucoup dans la science, ouais. Pour justement arriver à me sortir un peu de tout ça. Non, mais c'est sûr que c'est beaucoup. C'est sûr que c'est beaucoup. C'est pour ça que pour cette nouvelle année, je vais faire des choix aussi au niveau de mes investissements.
Tu as donc créé il y a un an et demi Hello Working,
mm-hmm.
qui est quand même un magnifique espace de coworking.
Merci.
Tu as monté ça en 6 mois.
Ouais.
Alors comment ça se passe de créer son entreprise en 6 mois, créer le business model, trouver les lieux? Enfin, j'aimerais bien savoir plus parce que pour moi c'est un peu une énigme parce qu'on prend souvent le double ou le triple en fait.
On peut prendre plus de temps, ouais, c'est vrai. Comment ça s'est passé? En fait, ça s'est passé, on va dire, assez naturellement, parce que ça venait d'un besoin. Moi, ça fait 10 ans que je suis à mon compte, en fait, que je suis indépendante dans la communication. Et j'ai toujours travaillé, soit de chez moi, soit dans les bars, soit dans les hôtels. Enfin, on connaît tous un peu ce statut-là. Et je voulais, donc à l'époque, c'était quoi? C'était en 2018.
Oui.
Je voulais, en 2018, prendre un espace pour moi, un vrai bureau, pour pouvoir accueillir mes clients et me développer. Et il s'avère qu'à cette époque-là, je me suis dit, ouais, mais prendre un bureau pour finalement de nouveau être seule, est-ce que ça sert à grand-chose? Autant rester chez moi, quoi. Et là, je me suis dit, ok, alors, si maintenant j'analyse la chose autrement, ce serait vraiment cool d'être entourée d'autres indépendants qui font d'autres choses, pourquoi pas des milieux qui sont même totalement différents du mien, et créer un espace dans lequel je pourrais les recevoir. Et là, je me suis dit, ça, c'est plutôt cool comme idée. Du coup, je me suis renseignée, en fait, c'est quoi le coworking? Comment ça marche? Un système de bureaux partagés, oui, mais derrière, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Parce que je voulais aller beaucoup plus loin que juste des bureaux. Donc, j'ai créé tout un système, en fait, effectivement, de services pour aider les gens à se développer, pour les accueillir dans un lieu dans lequel ils ont vraiment envie de venir travailler tous les matins. Lumineux, calme, en plein centre-ville, parce que pour moi c'est la clé aussi d'être en centre-ville, beaucoup d'espaces qui sont à l'extérieur en fait de Strasbourg. Donc voilà, en fait j'ai vraiment mis plusieurs petites pierres en fait à mon édifice, et puis à un moment j'ai trouvé un local. Le local, je l'ai acheté. Donc voilà, je suis propriétaire des murs et j'ai commencé les travaux. Et en fait, bim, 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 et arrivé à un moment, on se dit, putain, c'est ouvert, quoi.
Là, ça allait vite.
Et en fait, ouais, c'est assez incroyable. Mais je crois que quand j'ai une idée en tête, je lâche rien et je fais tout pour que ça se réalise. Et voilà.
Et t'as pas eu peur de dire... Enfin, tu t'es mis une deadline de 6 mois ou tu t'es dit, peu importe?
Non, en fait... J'avais une idée de date d'ouverture. Il s'avère que je voulais ouvrir en avril, en fait, 2018. J'ai ouvert en septembre. On a eu des retards, en fait, avec les travaux, etc. Donc, finalement, voilà, dans ma tête, c'était peut-être pas...
Tu voulais le faire en 3 mois, en fait.
Ouais.
Déjà, 6 mois, c'est hyper quoi.
Ouais, j'ai eu les clés le 2 février. Je voulais ouvrir en avril. Mes architectes, à l'époque, avaient prévu 3 mois de travaux. Et en fait, pas du tout, voilà. Donc non, il y a eu quelques déboires forcément, mais parce que c'est quand même un gros projet, il y avait quand même 130 mètres carrés à refaire, parce que c'était un plateau vide. Donc il y a eu énormément de travaux quand même. Mais au final, moi, je suis quelqu'un qui est quand même assez perfectionniste. Je voulais vraiment que ce soit parfait jusqu'à
la prise,
voilà,
dans les toilettes.
et du coup, c'était important pour moi de faire gaffe à ça, ouais, clairement.
Et c'était quoi les déboires? Si t'en as quelques-uns, je sais pas.
Oh bah alors les déboires, c'est déjà le retard, parce que forcément, quand on a la banque qui nous toque tous les mois en disant « Hey, coucou !»
T'as pas eu de difficulté avec la banque? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui a eu des difficultés.
Oui. Oui, mais après, pour la petite histoire, j'avais un apport personnel.
Ouais.
Voilà. Et aussi parce que j'avais fait vraiment un document très précis sur une étude de marché assez précise sur l'état du coworking déjà il y a 2 ans, qui fait d'ailleurs qu'évoluer
actuellement.
Voilà, c'est vraiment un boom. Je pense qu'on est dans les 10-15 ans à venir vraiment dans le moment où il y a une remise en question au niveau des méthodes de travail et que le coworking a toute sa place. Et du coup, j'avais vraiment fait un dossier béton. J'avais déjà beaucoup travaillé sur l'identité. Donc, je savais ce que je voulais faire, pourquoi je voulais le faire. Et donc, en fait, le banquier, quand il a vu ça, il s'est dit, ça tient plutôt la route. Ouais. C'est un investissement immobilier qui est en centre-ville de Strasbourg, qui craint pas grand-chose entre nous. Donc, il a dit, go, quoi.
C'est bien.
Voilà.
Et donc, les déboires, je t'ai coupé.
Ouais, non, bah déjà le retard, parce que clairement, c'est pas quelque chose que tu prévois, et du coup, quand t'as 5 mois de retard, voire 6 mois, faut derrière être proactif pour que ton activité fonctionne. Là, pour le coup, par chance, ça a quand même plutôt bien marché dès le départ, de par mon réseau aussi, puis parce que j'ai fait le nécessaire pour que ça marche. Donc le retard, ouais, ça a été un gros déboire, et puis après, surtout, un peu plus tard, pas à l'ouverture, parce que quand ça a ouvert, en fait, on ne se rend pas compte, mais il y a tellement de choses qui nous arrivent dans la frotte. Déjà parce qu'on est tiraillé de partout, entre les presses, les journaux, les magazines, les radios, etc.
Oui, c'est pour parler positivement.
Évidemment, mais ça prend beaucoup de temps.
Oui.
En plus de la gestion du lieu, où il faut accueillir les premiers résidents, il faut leur faire la visite, il faut forcément régler tous les petits détails pour que tout fonctionne, parce que chez moi... ça fonctionne en ligne, donc on se connecte, c'est un accès par téléphone avec Bluetooth. Bref, entre guillemets, il y a quand même des choses qui sont un peu techniques à régler. Donc l'ouverture n'a pas été facile. Et donc le véritable autre déboire, c'est le contre-coup.
Oui.
Le vrai contre-coup, c'est que c'est tellement d'investissement que quand on arrive un peu à respirer, un peu à prendre de la distance, on se rend compte qu'on s'est quand même pris une grosse claque dans la gueule, quoi.
À ce point ?
Et que c'est pas rien en fait. Ouais, c'est pas rien. Ouais. Donc enfin, là je dirais en juillet-août, j'ai vraiment eu un contre-coup. J'étais vraiment très fatiguée. Mais c'est une fatigue que j'ai jamais vraiment connue en fait. C'était une fatigue à la fois mentale, à la fois physique, à la fois sensorielle. Enfin, il y avait tout en fait c'était trop quoi.
Et t'as fait quoi ? Enfin, ça a duré 2 mois, t'as fait comment ? T'as continué à avancer, à être positive à...
Ça a duré un peu plus de 2 mois, pour ne rien cacher, et c'était vraiment une période où j'étais en remise en question en fait, sur plein de choses. J'avais besoin de temps pour moi à ce moment-là, et mon corps me l'a réclamé.
T'arrivais à en prendre ?
Du coup, juillet-août, j'ai pu vraiment être un peu plus tranquille, réduire un peu la cadence, parce que c'était aussi plus calme, d'un point de vue vraiment purement professionnel. Donc j'ai pris un peu de temps pour moi et puis et surtout je crois que la rentrée de septembre je l'ai vraiment abordée différemment en fait parce que je me suis rendu compte que j'avais trop donné. Du coup en septembre j'ai aussi réussi à faire des choix, j'ai aussi su dire non à certains projets, j'ai aussi j'arrive à finir mes journées plus tôt aujourd'hui, j'arrive en fait à me rendre compte que mon corps, ma tête, mon cœur est plus important en fait que ce que je donne toujours au niveau professionnel. Et ça va un peu mieux aujourd'hui à ce niveau-là.
Parce que t'es très demandée en fait.
Oui.
Tu pourrais faire tellement de choses, mais ça je demandais si t'avais besoin de clones pour arriver à tout régler et à faire tous les projets.
Ouais.
Maintenant tu fais des... comme on en parlait, t'es un peu actrice dans des petits projets assez sympas et...
Ouais, les à côté.
Ça,
j'appelle ça les à côté. Ouais.
Nouvelle passion.
En fait, je pense, en dehors d'être une entrepreneuse chevronnée, je suis aussi très curieuse de la vie. Et le côté pétillant, c'est justement d'être toujours dans la découverte, de me dire, ah tiens, ça je connais pas, j'ai envie de tester, ou quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, j'ai un challenge. Mylène, est-ce que tu veux participer à ce challenge ?
Oui, j'accepte.
Et moi, je suis la première à dire oui, parce que, en fait, je me suis rendu compte, au début, j'avais peur de tout. J'étais vraiment, au départ, on ne pourrait pas imaginer ça, mais vraiment, j'avais pas beaucoup de confiance en moi. Et j'avais vraiment Pardon, une porte qui vient de se...
Je pense qu'on va pas entendre.
Nous sommes dans un coworking, il y a du bruit autour de nous. Et donc je me sentais pas capable de faire toutes ces choses. Et il y a un moment où je me suis lancée et j'ai vu que ça marchait et que j'apprenais beaucoup.
C'était quand?
Alors là,
ça?
Je me suis dit, hey, mais en fait, autant continuer. En fait, c'était quand je me suis décidée à faire des études d'art. Ça, c'était il y a presque plus de 15 ans maintenant. Je me fais un peu vieille. En fait, je pensais pas que j'étais capable d'aller à Strasbourg. En fait, moi, à la base, je suis orinoise.
Ben,
voilà.
Bonsoir.
Ouais,
bonsoir.
Ouais.
Bonjour.
Ouais. Entre nous, on se comprend, on a la même odeur. Et mais blague à part, c'était pour moi, c'était toute une aventure de me dire, ok, je vais quitter mon chez-moi.
T'as
je vais
un petit
aller...
village.
Ouais, ouais, un petit village, ouais, Alkirch. Donc.
Mais je connais. Ah non, ça je.
Ouais,
par contre.
Dans 3 secondes, elle va m'embrasser.
Ah non, au contraire, pardon.
Ouais. Et du coup, ouais, c'était, pour moi, c'était déjà un truc complètement fou, venir à Strasbourg.
Oui.
Genre, les trams, je savais pas comment ça marchait. La première fois que j'arrive au palais universitaire, je me dis, mais c'est quoi cet espace? Je me dis, waouh, je vais faire mes études là-dedans. Mais il y a trop de gens, mais c'est pas possible. Mais c'était déjà beaucoup et je l'ai fait. J'ai réussi mes études et ça m'a énormément plu. La ville m'a plu, preuve en est que j'y suis toujours et que j'adore Strasbourg et que je développe d'ailleurs toujours des choses à Strasbourg. Donc c'est que j'en suis fière. Et ouais, tout ça pour dire que ce qui me semblait un monde à une époque, aujourd'hui, ça l'est plus quoi.
Alkirch, je connais, c'est dans le Sungo. Excusez-moi, il y a... C'est soit tes plans-plans,
oui.
La routine. Moi, je viens d'une vallée équivalente.
Ouais.
Soit tu pars et tu développes et tu crées. Par contre, t'es à l'opposé de l'image.
Totalement.
C'est souvent comme ça. Les gens, ils nous regardent bizarrement quand on revient dans... Parce que je pense qu'ils reviennent des fois chez tes parents.
Oui, de temps à autre, ça m'arrive.
Ça fait très bizarre.
Ouais, c'est un peu étrange.
Comme je sais pas si t'as la sensation de... Moi, j'ai la sensation de ne pas avoir mon identité chez mes parents.
Clairement.
Et où ils travaillent. Ouais. Genre, t'es pas en résonance.
Mon identité, elle est ici.
Mmh.
C'est celle que j'ai créée, en fait.
C'est
tout
ça.
Simplement, de toute pièce. Et ça a été une belle aventure et je regrette pas. Mais c'est vrai que ça faisait peur. Ça faisait peur. Et en fait, je crois que on a une petite peur, on arrive à la dépasser.
Mmh.
On a une moyenne peur, on se rend compte qu'on arrive à la dépasser, même si ça prend un peu plus de temps. On a une grande peur et au final, c'est toujours la même chose. On se dit, ok, je vais peut-être, pardonnez-moi l'expression, peut-être un peu en chier, mais au final, à la fin, on apprend tellement sur soi, sur les autres, sur ce qu'on est capable de faire, et ça révèle beaucoup de choses. Et donc, du coup, après, on n'a plus peur de rien, presque.
Quasiment. Tu
et
c'est
ça,
nos
c'est
peurs,
beau,
ouais.
En fait. Et c'est la vie, quoi. C'est les chemins de vie. Et oui, on peut ne pas y arriver.
Mm.
On peut avoir un échec. On peut ne pas réussir, bien sûr. Mais j'ai pas peur de ça, en fait. J'aurais plutôt peur de ne pas le faire.
Ouais.
Aujourd'hui,
regret,
hein. Alors qu'à l'époque, c'était l'inverse, quoi.
T'as peur de regretter?
Genre... ouais, alors ça c'est marrant parce que je crois que je me suis jamais dit que je
si tu fais...
que je pouvais regretter quelque chose
bah, si, tu le fais
si
pas,
je le faisais pas.
Je... Ouais,
oh, ce serait peut-être plus peut-être que je me poserais la question de savoir et si.
Mm-hmm.
Je sais pas si c'est en fait, je me dis que les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver. Et donc si ça se fait pas, eh ben je me dis ouais, ben c'est que ça devait pas se faire.
Ouais.
Donc c'est pas vraiment un regret. Je sais pas si voilà,
si,
on,
ouais,
on me comprend quand je parle mais ouais.
Et en parlant, tu parlais d'échecs, est-ce que tu as enfin, je pense que tu as des échecs. Est-ce que tu as envie de parler d'un échec, peut-être, en particulier?
Un échec... Alors, l'échec, en tant que tel, je ne l'ai jamais vraiment vécu.
Ou quelque chose... je sais
pas. Après, quand tu dis échec, tu... parce que tu...
non,
je sais que
échec...
tu parlais de honte aussi, alors...
Non, après,
ça n'a
après,
rien à voir, c'est après, d'accord.
Non, mais quelque chose
mais
que t'es pas arrivé à faire et que tu te sentais un peu nul, en mode... Ouais. Après, si t'abordes l'échec de façon... positive en disant non, c'est pas un
échec,
en fait,
ça
m'a pas...
Je crois que je suis plutôt philosophique à ce niveau-là
ouais.
Et j'envisage pas ça comme un échec. Je me dis juste, bon, c'était peut-être pas le bon moment, puis ça devait peut-être pas le faire à ce moment-là.
Ouais.
Et donc, du coup, soit je réessaye, soit je me fais une raison. Donc, je sais pas si j'arrive vraiment à dire le mot échec, même dans ma vie de manière générale, en fait. Parce que bien sûr, il y a plein de choses que j'ai pas réussi à faire, mais je m'en fais pas un monde, en fait. Je me dis, ouf.
Ouais. Non mais c'est tant mieux en fait,
ouais.
Justement, c'est la façon enfin la plus positive pour avancer et pas parce qu'il y a beaucoup de monde qui reste dans le passé à cause
c'est
de leurs échecs et ils n'avancent plus.
Mon hypnothérapeute m'a dit la semaine dernière que le passé c'est un cadavre qui pue et il vaut mieux pas mettre le nez dessus.
Alors l'image est forte. Je préfère l'histoire du rétroviseur mais
ah oui.
oui.
Voilà.
Ah oui.
Et en fait, depuis qu'elle m'a dit ça, je sais pas, ça a été une forme de révélateur. Effectivement, un cadavre, on n'a pas envie de le ressentir, quoi. Enfin, on n'a pas envie de mettre le nez dessus, quoi. Et du coup, ouais, je crois qu'elle a bien raison, en fait.
Je connaissais pas cette, cette image, mais je la retiens.
C'est parlant. Voilà. C'est cadeau.
C'est clair. T'arrives à gérer le hello working et ton travail de DA? Ça, t'arrives à gérer les deux, c'est pas...
Je... En fait, au départ, hello working m'a pris tout mon temps.
Oui.
C'est-à-dire que du coup, je pouvais plus faire de DA. J'ai vécu sur mes économies, du coup, forcément. Oui. Et là, aujourd'hui, maintenant qu'hello working tourne, maintenant que l'activité se porte bien, j'arrive du coup à refaire effectivement de la DA. Chose qui me fait du bien, parce que moi, j'ai besoin de créer. Et pendant le temps où j'ai ouvert et pendant le temps où j'avais besoin en fait qu'Hello Working marche, je me sentais aussi, c'est pour ça que je disais que j'étais un peu en down, parce que à cette époque-là, en fait, il n'y avait plus de création.
Oui.
Ouais, voilà. Et je crois que je me suis rendu compte que c'était ça qui me permettait de vivre et d'être heureuse, c'est de créer.
Mmh.
Et maintenant que j'ai repris ma DA, j'ai retrouvé une forme d'équilibre. C'est-à-dire que j'arrive à gérer Hello Working avec une collaboratrice du coup qui m'aide quand même, qui fait tous les matins. Moi, je fais les après-midi aussi, du coup. Mais j'ai trouvé un équilibre où j'arrive à faire de nouveau, on va dire peut-être 60% de DA et 40% d'Hello Working.
D'accord.
Mais j'ai besoin d'aide sur Hello. C'est-à-dire que si maintenant j'avais pas d'aide, ce serait full time sur Hello, quoi. Parce que ça me prend beaucoup de temps, en fait.
Mais t'as pas des stagiaires aussi?
En fait, j'équilibre entre collaborateur et stagiaire.
Mm-hmm.
Là, j'ai une stagiaire qui arrive de nouveau dans 2 mois, qui restera 6 mois avec moi, mais j'ai aussi ma collaboratrice.
Ça fait pas tout le travail, un stagiaire.
Non, c'est sûr. Bah, ma collaboratrice, du coup, je l'ai embauchée sur quelques mois, sur un CDD, et j'ai aussi embauché une deuxième personne. Donc, en fait, ouais, on est deux maintenant.
C'est bien, moi, tu fais travailler un peu...
J'ai créé de l'emploi.
Mais ouais, c'est bien. Félicitations.
Ça, c'est une forme de fierté aussi.
Ouais. Non, mais c'est vrai, moi, j'aimerais bien aussi créer une fois de l'emploi. Je me dis, je permets à quelqu'un de faire... voilà. Un travail en plus, enfin de créer un travail sur le marché. Ouh là, c'était pas français, mais c'est pas grave.
Non, mais on a tous compris.
Excusez-moi. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle de créer, voilà, de t'être lancé, etc. Est-ce que le jeu
de
en vaut
ouf. L'expression de jeune. Ouais. Non, de ouais, vraiment, vraiment de ouf, parce que je suis tellement, tellement plus épanouie aujourd'hui et plus en phase avec ce que je suis, mes désirs, mes besoins, que je regrette rien, en fait.
Ouais.
Je regrette rien. Même si ça a été, franchement, une pilule à avaler, quoi. Parce que énormément d'énergie à donner, quoi. Mmh. Et quand on donne, à un moment, on se décharge, quoi.
Oui.
Et non, je regrette pas. Vraiment, ça en vaut grave la chandelle de ouf.
Et quand t'as commencé tes études à Strasbourg, tu t'es dit, je veux être pour moi, ou tu t'es dit, ouais, je vais travailler dans... Enfin, t'avais une vision...
Alors, c'est marrant parce que j'ai repris cette phrase quand j'avais été publiée dans Ut Magazine. Elle m'avait demandé de choisir un lieu. Un lieu à Strasbourg qui m'inspirait. J'ai choisi le palais universitaire parce que j'ai fait mes études là-bas, comme je l'ai dit au départ. Et j'ai passé des heures incalculables sur les marches de l'entrée, là, les grandes marches, à regarder dans le vide et à me demander ce que j'allais faire de ma vie.
Ah ouais. Ah ouais, non, mais c'est normal aussi. Tu venais d'un petit coin, etc. Donc...
Franchement, si on m'avait dit, Mylène, tu vas arriver à ce stade-là de ta vie en créant tout ce que tu as créé jusque-là à Strasbourg, j'aurais dit, mec, je pense que tu as un peu fumé. Ouais. Tu vois.
Ah,
et en fait, moi, tout ce que j'avais envie de faire, c'était faire ce que j'aime, c'est-à-dire créer. Mes études étaient passionnantes. J'ai fait 2 masters pro, d'ailleurs.
Deux masters.
Ouais, j'ai enchaîné les masters parce que j'ai adoré faire mes études. Et du coup, je me suis dit, mais... Si j'arrive à faire de ma vie ma passion, bah j'aurai l'impression de ne pas bosser, quoi.
C'est ça.
Et en fait, c'est la clé. Donc, je suis contente d'avoir trouvé, ouais.
Donc, tu dirais à la Mylène d'il y a 15 ans, t'inquiète.
Putain, meuf.
Ça va le faire.
Ouais, ça va le faire. Ne t'inquiète pas.
Ça va être la folie.
Une petite clope, ça va aller. Hein. Bon, à l'époque, non, à l'époque, je ne fumais pas tant que ça, en fait. Ah, c'est venu un peu sur le tard. Après,
j'ai
arrêté.
En quand soirée.
La fameuse clope de soirée.
Je fume pas.
Non, en fait, je fume des clopes, j'appelle ça les clopes de pétasse. C'est les clopes toutes fines, là, les Vogue, mentolées. Ouais.
J'allais dire, il n'y a plus les roses, les pinks.
Mais rigole pas parce que je fumais les vanilles, tu sais, les clopes noires à la vanille, là. Oh, c'était dégueulasse. Je pense que je me suis tuée la totalité de mes poumons à cette époque-là de ma vie. Mais bon, pourquoi pas.
Quel mot te définirait en tant qu'entrepreneur?
Un seul.
Je sais pas, si t'en as plusieurs, vas-y.
En tant qu'entrepreneuse. Ouais, je pense que c'est vraiment chevronné, quoi. Parce que je lâche rien, en fait. Je lâche rien. Et j'aime faire les choses bien. C'est-à-dire que quand je m'investis, je m'investis à 200%. Et je sais pas faire un espèce d'entre-deux, un peu mi-cus, je sais pas faire. Donc, quand je ne m'investis pas, c'est aussi pour une bonne raison. Parce que je sais que je ne saurais pas le faire. Ou que je ne pourrais pas le faire correctement. Donc, ouais, je dirais chevronné. Ouais, c'est vraiment ça. Je lâche rien, quoi.
Pitbull, quoi.
Je lâche rien. Et d'ailleurs, aussi, je me suis rendu compte que quand on prend une certaine place aussi à Strasbourg, quand on est visible dans les réseaux, qu'on est force de proposition, qu'on crée des projets et tout, bah forcément, on est un peu à vue, quoi. Quand on est à vue, il y a aussi beaucoup de gens forcément qui te critiquent, qui te jalousent. J'ai entendu beaucoup de choses sur mon compte qui, pour la plupart, sont fausses. D'autres sont vraies aussi, mais en positif, on va dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ne m'arrêtera jamais, en fait. C'est-à-dire que, évidemment, il y a beaucoup de gens, je pense, qui se disent que j'ai réussi pour plein de tas de raisons qui ne sont pas forcément les bonnes. Mais même si on me calomnie, excusez-moi, je suis désolée, même si on me calomnie, même si on me juge, même si on essaye de me mettre des bâtons dans les roues, je n'arrêterai pas, en fait. Et je rirai encore plus fort, et je ferai encore plus de bruit. Et c'est pour ça que le mot chevronné me va bien, je pense.
Et face à la critique, ça va? Quand t'entends des choses mauvaises sur toi, enfin, c'est pas dur?
En fait, au départ, ça faisait un coup dur parce que je me disais, putain, je fais tout pour être quelqu'un de bien. Je fais tout pour être dans des réseaux ou aider les autres entrepreneurs ou faire mon possible, en fait, pour que ne pas être critiqué. Et au final, j'ai appris une chose, c'est que quoi qu'on fasse, de toute façon, on sera critiqué.
C'est ça.
Parce qu'on est toujours le con d'un autre, parce qu'on est toujours forcément en marge de quelqu'un qui, lui, va considérer que c'est pas la bonne voie. Et j'ai appris à vivre avec. Et en fait, aujourd'hui, ça ne me dérange plus du tout. C'est-à-dire que j'écoute et ça coule. Ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Mais je m'arrêterai jamais, en fait. Jamais. T'as raison. Si je dois plus m'arrêter... Enfin, si par exemple, maintenant, mon projet, j'ai plus envie de le mener à Strasbourg, bah, je le ferai ailleurs. Et puis, ce sera exactement la même chose, en fait. Je m'appliquerai tout autant dans un autre cadre.
T'as jamais voulu partir de Strasbourg ?
Si, j'y pense.
Aussi.
J'y pense. Alors, j'y ai pensé, mais je l'ai pas fait, je pense, mais... pour beaucoup de raisons aussi personnelles. Aujourd'hui, j'y pense, ouais. J'y pense carrément. Aussi parce que peut-être qu'Hello Working pourrait être ouvert ailleurs et que du coup, ben, ça peut être une porte d'ouverture, en fait. Donc,
tu voudras aller où ? T'as déjà une idée ?
Canada.
Canada ? En plus, j'allais dire New York, je sais pas pourquoi. Je vois bien New York.
Non, je pensais, à Montréal. Je pensais au Québec. Après, oui, à New York, c'est quand on voit les choses en grand, mais pourquoi pas ?
Je te verrai bien à New York. Je sais pas pourquoi. C'est la première...
J'adore New York.
Tu vois, je savais pas.
Vraiment bien là-bas.
Je savais même pas que t'étais allée là-bas.
Si, genre,
t'as un gros réseau.
Oui.
À quel moment tu t'es dit il faut que je me crée un réseau ? Parce qu'il y a un... Moi j'ai eu un tournant. J'ai vu une vidéo, par exemple, d'Emmanuela.
Ouais.
Et je me suis dit, ok, il faut que je me crée un réseau. Donc, je sais pas si y a un truc. Tu as eu un truc en disant il faut aussi que, enfin, il faut vraiment que je crée un réseau. C'est un peu, ben, c'est un peu stratégique. Hein, faut que tout le monde le fasse.
Alors comment est-ce que c'est venu à cette époque-là? En fait, donc moi j'ai mon master, donc j'ai terminé mon master, je me suis mis en freelance, d'accord? Donc ça remonte à 10 ans. Quand je me suis mis en freelance, le but c'était déjà d'avoir des premiers clients pour me faire un peu la main, quoi, pour me faire connaître, et puis après ça marche avec le bouche à oreille, hein, c'est toujours pareil. Du coup au départ je me suis dit ok, je commence comme ça, au moins je me fais une première expérience. Et après je me suis dit que l'idéal, ce serait quand même d'avoir un taf dans une boîte, quoi. De trouver soit dans une agence de com, soit chez l'annonceur, c'est-à-dire une entreprise qui a un département marketing interne. Et je me suis dit, ok, je vais envoyer des lettres de motivation et on va voir si je trouve un taf, tu vois. Et à cette époque-là, j'ai trouvé très rapidement, en même pas 2 semaines, j'ai trouvé un boulot de directeur artistique junior. Donc, je commençais à peine et j'étais dans une boîte pendant 4 ans. Et en fait, cette expérience-là m'a vraiment... permise de, bah déjà de me faire vraiment la main pour le coup, parce que j'ai géré beaucoup de choses et c'était passionnant. Et quand je suis sortie de mon CDI, mon but c'était de me dire, ok, avant j'étais en CDI, c'est-à-dire que j'avais des clients en parallèle en freelance, mais très peu, sinon j'avais pas de vie, quoi. Entre le soir et le week-end, j'avais pas de vie, quoi. Donc le but c'était de me dire, ok, maintenant j'ai plus de CDI, j'ai plus de paye tous les mois, je ne peux que vivre sur ma propre personne. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, Mylène, tu te sors les doigts du trou, quoi. Si les gens font appel à toi, c'est parce qu'ils te connaissent. Oui. S'ils te connaissent pas, tu n'existes pas. Si tu n'existes pas, t'as pas de boulot. Si t'as pas de boulot, tu payes pas tes factures. C'est QFD. Et là, je me suis dit, ok, on va déjà commencer à voir ce qu'il y a à Strasbourg au niveau entrepreneurial. Mmh. Donc, j'ai regardé un peu à droite à gauche les événements. Le premier que j'ai fait, c'était l'apéro entrepreneur.
Ouais, classique. Hein.
Du coup, je me suis pointée un jeudi soir. C'était la Salamandre. Et ça remonte du coup à presque 4 ans maintenant, la première fois que je l'ai fait. J'ai rencontré Sam, qui est devenu un de mes collaborateurs clés, puisque du coup, on a fait beaucoup de projets tous les deux. On s'entend super bien. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. Et ça a été le début, en fait. Pardon, j'ai plus de voix. Mille excuses. Ça a été le début, en fait, de mon réseautage, en me disant, ok, j'adore parce que je rencontre plein de gens. Je parle à des univers complètement différents. Et moi, qui suis hyper curieuse, en fait, je me suis rendu compte que j'apprenais beaucoup de ces rencontres et que... il suffisait de pas grand-chose, en fait, pour se faire du réseau. En fait, il faut juste être soi-même. Mmh. T'es un peu sympa, t'as un petit sourire à la clé parce que t'es quelqu'un de jovial et quelqu'un de sympathique. Et ben, franchement, c'est facile de faire du réseau.
Ouais,
quoi.
Ça peut aller vite.
Mais carrément, ouais.
En plus, il y a 4 ans, il y avait quasiment personne. Enfin, il y a pas beaucoup de monde, si. Ça a bien marché direct.
Non, pas tant. Ouais. Enfin, il y en avait. Ouais. Mais en 4 ans, il y a eu... on a sorti le magazine des entrepreneurs Alsace, le site a aussi énormément évolué, les réseaux sociaux ont pris beaucoup de place forcément. Donc c'est vrai que cette association-là, je pense qu'elle avait beaucoup de sens pour moi au départ. Et ça m'a beaucoup aidée.
Donc ça t'a permis d'ouvrir des portes,
ouais,
aussi.
Carrément, ça m'a ouvert beaucoup de portes.
Parce que je sais que quand on va à des événements et que t'es là, tout le monde veut te parler. Ah, Mylène, Mylène,
oui.
Toi, t'es en mode waouh, ouais.
Mais c'est parce que je suis sympa, je pense. Les gens, ils disent, hey, on va passer un bon moment avec elle. Ouais.
Non, mais quand je te connaissais pas, enfin, moi, je te dis, la première fois que je t'ai vue. C'était quelqu'un que je connais qui m'a dit « Ah, salut Mylène !» J'étais en mode « Non, mais arrête, elle me fait flipper. » Je vais pas venir te parler.
Je vais pas lui parler à elle.
En plus, aussi, un des premiers trucs que je t'ai dit, comme avec Ben et Joe, c'est « Ouais, j'ai un projet de podcast. » Et donc, j'ai mis un an à les faire. Et je t'ai dit « Ouais, tu peux pas en faire. » Et je t'ai dit « Ouais, on va pas parler de ton chiffre d'affaires. » Je m'en fous, ou combien tu gagnes, etc. C'est pas le but, et t'as tout de suite dit oui, en fait.
Ouais, mais en fait,
je connaissais pas, moi j'avais même pas d'idée, enfin vraiment, j'étais en mode « Je veux faire un truc que je sais pas, je te propose, t'as dit oui. » Ok.
Bah écoute, ça me plaît parce que t'as choisi un bon sujet en plus de ça.
Mais j'avais pas choisi ce sujet à l'époque.
Ouais,
hein,
ah oui,
ça,
c'est
tu
vrai.
Vois.
C'est vrai, tu m'as dit t'as changé. Ouais.
Ouais. En fait, je n'avais pas. Mais voilà, mais je suis contente. Un an après, on l'a fait.
Ouais, grave. Tu vois, comme quoi, t'as une idée au départ et tu te donnes les moyens d'y réussir.
C'est ça. Bon, j'ai mis plus longtemps que toi.
Ouais. Mais le temps est pas important. Ouais. C'est le chemin qui compte. Mmh. Tu vois. Après, le faire pour le faire, ouais, c'est super. Mais c'est le chemin, quoi. C'est là que t'apprends.
Ah oui. Comme tout le monde, comme toi, enfin, à la base, quoi. Faut tenir le coup, c'est ça. Quel est ton plus grand défaut ?
Écoute, mon défaut...
Est-ce que tu as des défauts, Mylène ?
Ouais, alors oui, mais, bien sûr, faut pas faire une liste, une quantité astronomique. Alors, le côté de dire, ouais, je suis perfectionniste, ouais, hein, c'est parce qu'en fait, j'aime bien quand les choses sont bien faites. Hein. Bon, cela dit, c'est quand même indépendant, ouais. Où des fois, j'ai quand même perdu... quand même perdu du temps et surtout très peu de bienveillance envers moi-même à être trop perfectionniste. Les défauts, je pense que je suis... j'ai très peu d'estime de moi. Alors, c'est quelque chose que je travaille. Hein.
Ouais.
Mais il n'y a pas très longtemps, j'ai compris en fait la différence entre confiance en soi et estime de soi. La confiance en soi, je pense que j'en ai, puisque ça m'a permis effectivement de réaliser tout ce que j'ai réalisé jusqu'à aujourd'hui. Mais l'estime de soi, c'est quelque chose qui est complètement différent. Et je pense que pendant longtemps, je me suis dévalorisée. Je me suis auto-castrée. J'avais très peu de bienveillance envers moi-même. J'étais très, très dure avec moi. Ça veut dire que je partais du principe que j'étais une merde et que quoi que je fasse, en fait, ça n'allait pas forcément s'améliorer. Et pour la petite histoire, ça fait maintenant presque 2 ans que je suis dans le développement personnel, c'est-à-dire que je suis vraiment en train de me poser des vraies questions sur moi, sur ce que je suis, sur ce que je vaux. Et j'arrive de plus en plus, en fait, à comprendre que je suis peut-être pas une merde et que je suis aussi quelqu'un qui a des valeurs, qui a des qualités. Et j'arrive de plus en plus à aller sur ce chemin-là. Je suis pas encore au taquet, mais ouais, je pense que mon plus grand défaut, c'est manquer d'estime de moi.
Alors que honnêtement, pour moi, t'es une des femmes les plus inspirantes, tu vois, de Strasbourg. Je connais pas encore tout Strasbourg, mais à mon échelle, ouais. Pour moi, c'est ça que je voulais te voir en podcast, etc. Parce que moi, t'es une des personnes, ouais, qui est le plus inspirante et vraiment, quoi.
C'est gentil. Mais en fait, ouais, le truc, c'est
non,
que...
Non, mais par tout ce que tu fais, etc., t'as toujours le sourire, ouais, alors que je pense qu'il y a des moments...
C'est pas...
C'est,
ouais,
c'est genre... Salut. Et au fond, t'es en mode... Je vais rentrer.
Bah, le truc, c'est que je pense qu'au départ, je m'écoutais pas assez. Ouais. C'est-à-dire que je réseautais, je sortais, j'étais dynamique, je montrais que j'étais, voilà, que j'avais le sourire, etc.
T'étais au top tout le temps.
Et alors, effectivement, j'ai toujours été quelqu'un de positif. C'est vrai, ouais, hein, je suis optimiste.
On n'est pas
et...
tout le temps.
Voilà. Ouais. Mais je pense qu'au départ, je partais du principe qu'il le fallait, tu vois, et qu'il fallait que je sois ça, qu'il fallait que je montre toujours le bon côté de moi-même. Et quand j'ai compris avec le temps que ma vulnérabilité c'était aussi une force, j'arrive de plus en plus à être moi-même. Et quand j'ai pas envie aujourd'hui, eh ben j'ai pas envie. Et quand je sens en fait à l'intérieur de moi que je n'aurai pas la force en fait de sourire et d'être, ouais, dynamique et d'être positive, eh ben je ne le fais pas.
Parce que c'est pas grave en fait, on est tous,
non,
comme ça. Hein.
Eh ben c'est ça qui est beau. Ouais. C'est en fait arriver à se pardonner à soi-même, ouais, aussi, de pas toujours être au top et de se dire mais en fait je suis comme je suis, quoi. Tu prends pas ce pareil. Mais je me parle à moi-même en disant ça, tu, oui, vois, je parle pas de l'autre. Et je crois que j'ai toujours cherché l'approbation dans le regard des gens. Une forme de « soyez fiers de moi, vous avez vu que je mérite le respect ». Mais en fait, tout ça, c'est du bullshit.
Parce que
si tu le sens
aussi,
pas pour, ouais, toi-même, personne pourra le faire à ta place, tu vois. Donc c'est un cercle vicieux et j'arrive à en sortir aujourd'hui. Et je me sens beaucoup plus libérée, beaucoup mieux dans ma peau aujourd'hui que ce que je l'étais il y a quelques années, quoi.
C'est le développement personnel qui t'a aidée alors ?
Ouais, énormément. Ouais. J'ai fait des formations, j'ai rencontré des gens qui m'ont beaucoup aidée. J'ai beaucoup parlé, ouais, beaucoup parlé de mon passé, des fractures du passé aussi, plein de choses qui ont fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et j'ai envie d'être entourée de gens authentiques et d'être moi-même authentique. Parce que je pense que c'est ça la clé.
C'est une quête à toi d'être authentique ?
Bah c'est, je pense que j'en manquais peut-être, ouais, à un moment de ma vie parce que j'avais besoin de prouver des choses. Et aujourd'hui, en fait, je me suis prouvée à moi-même que ben, j'ai le droit aussi de,
ah oui,
de ne pas y arriver si jamais ça ne devait pas marcher. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'à cette époque-là, je me mettais beaucoup trop d'enjeux sur les épaules, quoi. Mm-hmm. Je me rends compte que, ben, en fait, ça ne sert à rien.
Oui, parce que tu as accompli tellement de choses.
Ouais. Ouais, et en fait, c'est ça, c'est, ah, le, voilà, chemin, en fait, qui m'a montré
un chemin
que j'étais capable,
ah,
en,
oui,
fait. Partant de là, j'ai besoin d'avoir l'approbation
de personne.
De personne.
À part toi, quoi.
À part de moi-même, voilà. Ouais. En me disant, Mylène,
bravo, c'est beau.
C'est bien ce que t'as fait,
non,
putain.
Non, mais c'est vraiment
c'est cool
beau,
ce que t'as fait, quoi.
Moi, j'adore. Je suis fan.
Merci.
Qu'est-ce que tu détestes faire dans ta boîte ?
Ce que c'est je déteste faire...
Un truc, si tu ne vas pas faire, ça t'arrangerait vraiment.
Ouais, le ménage.
Ah, c'est toi qui fais le ménage ?
Non, en fait, pour la petite histoire, je l'ai fait la première année,
ouais,
parce que le but, c'était d'économiser de l'argent.
Ouais.
J'ai une femme de ménage maintenant.
Ouais. Ah ouais, non, c'est le premier truc que je
regarde. Ouais, ouais, ouais.
Femme de ménage. Mais il n'y a pas, t'as pas encore les locaux. Je m'en fous.
Ouais, ouais. C'est femme de ménage d'abord.
Ah, mais c'est, moi, c'est
mais
mon rêve.
Ouais, non, c'était pas forcément la tâche la plus agréable, mais quand on est entrepreneur et quand on lance une boîte, ben, franchement, on fait tout, quoi.
Mmh.
Et je dis pas que c'était... que c'était quelque chose qui était affreux à faire, mais ce que je veux dire par là, c'est que...
Mais tu perds du temps,
voilà,
en fait.
Voilà, en fait, c'est économiser un temps précieux, ouais, pour faire autre chose. C'est, voilà. Mais je l'ai fait, je l'ai fait. Je l'ai fait pendant un an.
Bah,
voilà.
T'as eu raison de prendre une femme de ménage parce que tu peux allouer tout le temps pour tes loisirs ou
c'est ça.
La DA. Quoi.
Bah, c'est surtout qu'aujourd'hui, ouais, ça marche. Ouais. J'ai des gens, c'est fréquenté, voilà. Donc voilà, maintenant, je peux faire ça, quoi.
Est-ce que tu as une anecdote de la honte à nous partager ?
Ouais. En fait, quand tu m'en as parlé avant, je me suis dit, alors attends. Ouais, et en fait, j'ai réfléchi à un truc, et j'y pense encore aujourd'hui. À cette époque-là, donc, je venais de quitter mon CDI, donc ça remonte à 4-5 ans, je dirais maintenant, un peu plus. Il y avait une annonce pour devenir Miss Météo sur Alsace 20.
Quand je te regarde, genre...
Casting. Et casting Alsace 20. Donc du coup, à cette époque-là, je me dis, ok, Mylène, tu vas pas y arriver, mais c'est pas grave. Allez, tu y vas et tu
expérience.
Verras bien. C'est fun, c'est drôle. Ok, allez. Donc je décide de le faire. Et je me pointe devant Alsace 20. Et il y avait, je pense, 150 personnes. C'était une catastrophe.
Oh, c'était Miss Monde l'élection, c'était Miss Météo.
C'était Miss Météo, ouais. Et je me suis... En fait, c'était pas Miss Météo. C'était, enfin, pas celle ouais. qui fait la semaine, mais c'était Miss Météo le week-end, en fait. Donc, c'était, je crois, vendredi, samedi, dimanche, il me semble. Bref, ouais. les horaires que celle qui était vraiment en place ne faisait pas, quoi. Et donc, du coup, j'arrive et je me dis, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est pas possible. Et donc, du coup, finalement, j'ai rencontré des gens super sympas ce jour-là, donc je regrette pas la journée. Mais je suis passée, je crois, en dernier, ou dans les 10 derniers. J'étais fatiguée,
ah oui.
éprouvée, parce que ça a commencé de 8h du matin, je suis passée à 18h.
Ah, t'es resté 10h là-bas.
Ouais, affreux. Mais je me suis dit, quitte à être en condition de casting, autant le vivre vraiment, quoi. Donc, je suis restée et jamais j'aurais abandonné de toute façon, quoi. Ouais, j'étais inscrite, je voulais le faire, tu vois.
Il y a des trucs que t'abandonnes pas, mais...
Dis ça. Ouais, ouais. Et donc, du coup, j'arrive en dernier, j'étais vraiment fatiguée. Et il s'avère que, comme le podcast là où tu me poses des questions que je sais pas qu'est-ce que tu vas me demander, bah c'était pareil.
Mmh.
Et ils m'ont demandé de... Qu'est-ce qu'ils m'ont demandé ? C'était quoi la question ? C'était, ils m'ont dit, alors déjà présenter effectivement la météo, donc t'as un écran bleu là, ouais, et puis tu vois...
T'es là en mode Arcachon, je sais pas où c'est.
tu cherches tes mains, donc c'est un peu compliqué. Bon bref, je me suis à peu près bien démerdée. Et ensuite, ils ont dit de parler d'un village en Alsace, enfin de raconter une anecdote de je sais pas quoi, enfin, je sais même plus quoi. Et alors là, j'ai perdu tous mes moyens. Et j'ai fait une blague de merde, mais un truc...
C'était quoi la blague ?
Moi, je me souviens même plus tellement c'était naze. Et en fait, le truc, c'est cette fameuse blague que tu fais et où en fait, personne ne rigole. Et tout le monde te regarde. Et il y a le fameux silence. Tu vois, ce silence ?
Où tu te dis, oups.
Ce silence horrible où tu te dis, putain, pourquoi j'ai dit ça, en fait ? C'est horrible. C'est horrible. Et du coup, le gars, il me dit, ok, Mylène, alors, on va la refaire. On va te reposer la question et essaye de dire autre chose, d'accord ? Et moi, j'étais là en mode, d'accord.
C'était pas un bon public, c'est pour ça.
C'était pas la bonne journée, c'était pas bon toi, public. C'était... J'étais fatiguée, il n'y avait rien qui allait. Et donc, alors, pour la petite histoire, je suis quand même arrivée 6e.
Oh.
Enfin, ça veut dire que j'ai été sélectionnée dans les 6 derniers, sur les 150. Et sur les 6 derniers, ils ont finalement choisi un mec. Je pense que c'est parce que vu qu'il y avait déjà une nana en place, ils voulaient prendre un mec.
C'est rare les mecs en météo.
Ouais. Mais il était bon. Hein.
Ouais.
Parce que du coup, après, je l'ai vu, je me suis dit, ah, il est bien. Donc, j'ai pas, au final, même avec une blague de merde, j'ai quand même réussi à être sixième, quoi.
Ça va, c'est une petite honte.
Ouais, ça va. Ouais.
Moi, je pense que quand t'étais sur le moment, voilà.
Non, mais.
Je veux partir.
Liquéfié sur place, tu vois, la sensation. J'en pouvais plus. J'avais envie de partir en courant, quoi.
Et donc, notre podcast est bientôt fini. Et
ouais.
J'aime bien conclure par une question, c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné ?
Le meilleur conseil qu'on m'a donné, bah, c'est d'être moi. Et de toujours m'écouter, moi, en fait. D'écouter mes intuitions et mon cœur.
Ouais.
Ça, c'est vraiment le meilleur conseil qu'on m'a donné. Et je crois qu'inconsciemment, j'ai toujours fonctionné comme ça, en fait.
C'est un beau conseil.
Mm.
Donc, on a fini le podcast.
Oh, c'était super, donc, merci beaucoup.
Ben merci.
J'ai hâte de l'écouter.
Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel article sur mon blog et dans 15 jours pour un nouveau podcast. Et je vous fais des bisous.
Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste 2 minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Si tu as un iPhone. Sinon, tu peux me suivre sur Spotify. Ça me permettrait de me faire connaître en remontant, tu vois, dans l'algorithme. Ça toucherait plus de personnes et on serait une plus grande communauté à m'écouter. Tu peux aussi le partager à un ami. Peut-être que ça l'inspirera. Peut-être qu'il en aurait besoin aujourd'hui pour être reboosté. Et si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.